Frères et sœurs, donc dans ce temps très particulier du temps pascal, nous sommes invités à prier avec toute l'Église pour accueillir le Saint-Esprit. Mais les lectures de ce jour nous montrent aussi un autre aspect, c'est que dès que le Seigneur est monté au ciel, tout de suite, les apôtres ont senti la responsabilité de commencer à organiser l'Église, à constituer l'organigramme de l'Église. Ça va s'accentuer après la Pentecôte. On se souvient qu'après la Pentecôte, il y aura l'institution des sept diacres, hein, début. Et puis ensuite, très rapidement, quand les communautés vont commencer à se diffuser, non plus à Jérusalem, mais dans d'autres villes autour, on va mettre ce qu'on appelle les anciens, hein, les presbytres, qui vont devenir donnés prêtres, ou bien les épiscopes. Hein, ils seront souvent plusieurs, et parmi eux, il y en a souvent un plus important, et qui va devenir... Alors après, on va changer les noms, on va donner le nom d'évêque, de prêtre. Toutes les églises seront organisées avec en plus des diacres dans l'église. Très très vite, cette organisation va se mettre en place et on voit dès aujourd'hui, juste après l'ascension, alors que la Pentecôte n'est pas encore, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur les apôtres de façon plus puissante, on va dire, eh bien, déjà, Saint-Pierre, les apôtres, et par la parole de Saint-Pierre, qui n'est pas sans signification, le fait que ce soit Saint-Pierre qui parle au nom de tous, on voit que déjà, il était le premier des apôtres, et qui va devenir, à travers son martyre à Rome, mais ça va devenir le siège de Rome, va devenir le premier de tous les sièges d'évêques dans le monde, eh bien, on voit Saint-Pierre qui invite à ce qu'on trouve un nouvel apôtre, un 12e apôtre, puisque Judas a trahi, et pour qu'on élise un nouvel apôtre. Et vous avez vu la procédure, hein, c'est une procédure particulière que dans l'Église catholique latine, on n'a pas maintenue, hein, quand on élit les papes, parce que c'est les papes qui sont élus, et ensuite les papes sont nommés par, les évêques sont nommés par le pape, et bien quand on élit les papes, c'est des systèmes de vote, énormément de votes, hein, par des votes on voit les noms qui surgissent. Par contre, là, dans la première communauté, eh bien, on voit, ils réfléchissent ensemble. Hein, ils sont pas très nombreux. Hein, il y a les 12 apôtres et puis des disciples autour. Ils discutent ensemble. Ensuite, ils désignent, selon certains critères, des candidats. Et ensuite, ils tirent au sort. Hein, cette tradition, elle est maintenue encore dans une église orthodoxe, ce qui est l'église copte à Alexandrie, hein, le successeur de Saint-Marc, puisque Saint-Marc va fonder l'église en Alexandrie, eh bien, dans l'église copte, il y a de la même manière, ils discutent, ils font sortir quelques noms, ils mettent, je vous le dis parce que c'est assez anecdotique, mais ça fait sourire un petit peu, mais en même temps c'est beau. Et ensuite, ils demandent à un enfant, je ne sais pas comment ils désignent l'enfant, de venir, ils prient le Saint-Esprit, et ils demandent à l'enfant de venir tirer un nom au sort pour être le successeur de Saint-Marc à Alexandrie. Hein, on appelle ça le pape d'ailleurs, il s'appelle. Voilà, c'est juste pour dire les modes d'élection. L'essentiel, c'est que le Saint-Esprit soit invoqué et guide la démarche de l'Église et que l'Église se structure, s'organise. C'est ce qui se passe donc dès le début de l'Église. C'est ce qu'on entend donc dans la première lecture que vous avez entendue des Actes des Apôtres. Alors, je voudrais simplement pour bien appuyer mon propos, c'est le fait que ce soit vraiment dans la volonté de Dieu que cette structuration de l'Église, citer saint Ignace d'Antioche, qui, lui, à la fin du 1er siècle, donc très très tôt, va écrire une lettre où il dira ceci. « Il convient de ne pas porter seulement le nom de chrétien, mais de l'être aussi. Certains, en effet, parlent toujours de l'évêque, mais font tout en dehors de lui. Cela ne me paraissent pas avoir une bonne conscience, car leurs assemblées ne sont pas légitimes ni conformes aux commandements du Seigneur. Ainsi, puisque dans les personnes que j'ai nommées plus haut, j'ai dans la foi vu et aimé toute votre communauté, je vous en conjure, ayez à cœur de faire toutes choses dans une divine concorde, sous la présidence de l'évêque qui tient place de Dieu, des presbytres qui tiennent place du Sénat des apôtres et des diacres qui me sont si chers et à qui a été confié le service de Jésus-Christ, avant les siècles, était près de Dieu et s'est manifesté à la fin. » Voilà, donc prions pour que notre Église continue sa mission et accueillons le fait que l'Église est organisée pour le bien du peuple de Dieu dans la volonté du Seigneur. La première lettre de Saint Jean, la deuxième lecture, elle invite à deux aspects de la foi, deux aspects de du ciment de l'Église. C'est la foi en Jésus-Christ Sauveur qui nous unit les uns avec les autres et aussi la charité, l'amour. C'est ce à quoi Saint Jean nous invite. Si nous croyons en Jésus Sauveur, si nous aimons, Dieu est en nous, est avec nous. Et c'est lui qui nous unit les uns aux autres. Jeudi dernier, jeudi de l'Ascension, eh bien, le Saint-Père, notre pape François, a promulgué une bulle d'indiction pour le jubilé 2025. Vous savez que tous les 25 ans, depuis l'an 1300, le pape de Rome, eh bien, considère que c'est une année sainte, c'est un anniversaire, c'est une année sainte où il y a des grâces généreuses de Dieu qui sont données. Donc, il y en a eu une en 2000, vous en souvenez, il y en a eu une en 2025. Dans cette lettre, cette bulle d'indiction, il annonce qu'il y aura une année sainte aussi en 2033. Je ne sais pas si vous devinez pourquoi, parce que c'est le moment où Jésus meurt et ressuscite. C'est l'anniversaire de sa mort et sa résurrection, des 2000 ans. En tout cas, pour 2025, dans cette bulle d'indiction qui annonce donc cet événement du jubilé de 2025, eh bien, il le met sous le thème de l'espérance, parce qu'il considère qu'elle est très mise à mal. Il évoque énormément de sujets. Alors, je vous invite à aller voir, vous pouvez l'accéder aisément sur Internet. Il aborde énormément de sujets, avec des sujets qui lui tiennent beaucoup à cœur, comme l'accueil du pauvre, de l'immigré, du souffrant, de l'oublié. Il aborde aussi un sujet qui m'a frappé, c'est le sujet de la vie, en disant qu'aujourd'hui, il est inquiet de voir que dans les pays chrétiens, même dans les familles chrétiennes, eh bien, on ne croit plus en la vie et qu'on ne veut plus faire d'enfants. Donc il aborde cette question-là. Je vous invite à regarder cette question. Même si en France, nous sommes un petit peu particuliers parce que les familles chrétiennes font en général plus d'enfants que la moyenne. En tout cas, il aborde ce sujet de la vie. Quel est notre rapport à la vie? Est-ce qu'on croit encore à la vie? Il dit qu'il y a un doute là-dessus. Il n'y a plus d'espérance en la vie. Et puis, au numéro 25, je vous cite un petit passage sur l'espérance. L'image de l'ancre évoque bien la stabilité et la sécurité que nous possédons au milieu des eaux agitées de la vie, si nous nous en remettons au Seigneur Jésus. Les tempêtes ne pourront jamais l'emporter parce que nous sommes ancrés dans l'espérance de la grâce qui est capable de nous faire vivre dans le Christ, en triomphant du péché, de la peur et de la mort. Cette espérance, bien plus grande que les satisfactions quotidiennes et l'amélioration des conditions de vie, nous porte au-delà des épreuves et nous pousse à marcher sans perdre de vue la grandeur du but auquel nous sommes appelés, le ciel. Fin de citation. Je voudrais terminer en nous invitant à la prière. Pour préparer le jubilé de 2025, le pape François avait souhaité que 2024 soit une année de la prière. Nous sommes dans le temps de la prière pour l'attente du Saint-Esprit. L'Évangile, comme tous les ans, est tiré du chapitre 17 de Saint Jean, où Jésus fait cette grande prière au Père. C'est la prière qu'on appelle la grande prière sacerdotale. Nos prières eucharistiques, celles que nous dirons tous les deux prêtres ensemble, les prières eucharistiques sont dans la continuité de cette prière unique de Jésus. Et je rappelle que cette prière de Jésus, il l'a dit, cette grande prière sacerdotale, il l'a dit entre le moment où il a institué l'Eucharistie, le jeudi saint, et le moment où il a souffert sa passion, le vendredi saint, et où il est ressuscité. C'est ce que nous vivons dans la messe. Nous continuons cette prière de Jésus, et c'est Jésus qui prie, qui continue à prier pour nous. Et nous sommes appelés, nous sommes invités à nous unir à sa prière d'intercession. La prière de Jésus suffit en lui-même, mais dans le jeu des libertés humaines que Dieu veut respecter, il est important que nous nous unissions à sa prière, à la prière de Jésus, pour que des grâces supplémentaires soient accordées à notre monde. Nous sommes appelés à nous unir à la prière et à prier, comme dira la fin de la doxologie, comme nous disons à la fin de la doxologie, par lui, par Jésus, par lui, avec lui et en lui, à prier par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Et avec cette prière, ce n'est pas une prière du bout des lèvres que nous devons prononcer, et c'est ainsi qu'on obtient des exaucements, c'est quand notre prière est aussi une offrande de nous-mêmes, une offrande de notre vie, un don de soi à Dieu dans la confiance. L'offrande de soi, qui est une prière, qui est la prière eucharistique, qui est la prière de la messe, l'offrande de soi change le monde, obtient des grâces particulières pour nous-mêmes et pour le monde. Aussi, je vous invite vraiment à prier avec ferveur, à invoquer le Saint-Esprit, à demander à ouvrir votre cœur pour accueillir le Saint-Esprit. Et donc, nous prions particulièrement aujourd'hui pour ceux qui vont être baptisés, pour qu'ils puissent eux aussi entrer dans ce chemin de la vie chrétienne. Amen.